Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ce journal s'ouvre par un résumé du meeting de la plateforme politique Lamuka de Martin Fayulu et Adolphe Mouzi, tout tenu hier samedi à la place Sainte-Thérèse à Tchangou, ici à Kinshasa. Divers points d'actualité politique ont été évoqués, nous dit tout de suite Paul Matendo. Nous vous parlons également de ces convois de véhicules des civils en provenance de Luna qui a été attaqué hier samedi. Vous aurez les bilans dans cette édition du journal. Comme invité ce midi, nous vous proposons de suivre en fin de cette édition Maître David Kamoua, conseiller du gouverneur du Nord Kivu en charge des finances, économie, commerce et portefeuille, sur les motivations de la reprise de la libre circulation des minerais dans les deux Kivu et le Maniema. Fidèles auditeurs, merci de choisir Radio Kapi pour vous informer. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Devant ce micro, Billy Ivan Lutumba pour la présentation. La dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, l'organisation des élections en 2023, la réforme des institutions, la situation socio-économique, la taxe RAM et l'insécurité dans l'est de la RDC sont là, entre autres, les questions qui ont été abordées par Martin Fayulu Madidi lors de son meeting tenu hier samedi ici à Kinshasa. Paul Matendo était sur place.
Pas de glissement ni de fraude pour les élections prochaines, a martelé Martin Fayulu lors de son meeting devant des milliers de militants de sa plateforme Lamuka. Parlant de la Commission électorale nationale indépendante, la question, selon lui, n'est pas liée à l'homme, mais plutôt à la dépolitisation de cette institution. Au sujet de l'insécurité dans l'est de la RDC, plusieurs personnes sont régulièrement massacrées, a affirmé le président du parti politique Engagement citoyen pour le développement SID en dépit de l'état de siège. Et aux autorités de lever l'état de siège qu'ils considèrent comme une distraction et de revenir à l'administration civile. La taxe RAM a été également évoquée pendant ce meeting. Cette taxe doit être annulée et reverser l'argent dans les trésors publics. Il a aussi appelé l'inspection générale des finances à se saisir de cette question. Attendu à 13h par ses militants, Martin Fayulu Madidi a débuté son meeting à 16h sur le terrain Sainte-Thérèse du quartier 6 dans la commune d'Enjili.
Et puis le porte-parole de la diaspora de l'UNC, coordonnateur du mouvement Wazalendo allié au parti cher à Vital Kamerhe, appelle la classe politique congolaise au respect mutuel, à l'unité et à éviter l'outrage. Dans un point de presse samedi à Kinshasa, Miigo Nihiwe Christian a également noté qu'au stade actuel, la RDC a besoin de la contribution de tous les fils et filles du pays, y compris son leader pour la cohésion, gage de son développement. Le porte-parole de la diaspora de l'UNC, coordonnateur du mouvement Wazalendo, continue à déclarer l'innocence de Vital Kamerhe et à exiger sa libération. Les propos d'Emigo Niwe Christian ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Le dossier de Vital Kamerhe est vide car non seulement nous tous avions suivi comment est-ce qu'il y a une innovation d'un terme dans le droit pénal congolais qui n'existait pas, le détournement intellectuel. Et puis, tous les acteurs impliqués, entre guillemets, dans ces procès de 100 jours, vous allez constater que c'est celle Vital Kamerhe qui est en prison. D'abord, nous remercions le président de la République pour cette reconnaissance de Vital Kamerhe comme quelqu'un de correct et de sérieux. Mais nous voudrions également qu'il s'implique davantage en tant que magistrat suprême afin que cet homme correct et sérieux puisse retrouver sa liberté. C'est un message de réconfort. Nous espérons à sa matérialisation. On ne peut pas se limiter justement à la parole, mais il est le magistrat suprême. Et c'est par là où nous espérons encore à sa bonne foi. En tant que magistrat suprême, aux membres de notre parti, nous insistons plus pour l'unité et la cohésion. Nous insistons plus pour la cessation sans condition des petits conflits internes. Notre inquiétude, c'est que quand ça brûle à l'interne, on donne plus le temps aux ennemis de Vital Kamerhe, on donne plus l'occasion aux détracteurs de l'IA de nous fragiliser davantage.
Parlons à présent de la tenue des élections en 2023 qui est une question de volonté politique et non un problème technique et financier. Une feuille de route a déjà été élaborée et se trouve sur la table du Premier ministre. Il en découle que les préparatifs des opérations mutualisées préélectorales devront se terminer le 15 mai 2023. Elles concernent l'identification de population, le recensement scientifique et l'enrôlement des électeurs. Ces révélations ont été faites au cours de la journée scientifique organisée par la Faculté des droits de l'Université de Kinshasa hier samedi autour du thème « Identification et gouvernance politique en RDC ». Reportage de Jeff Ngoy.
C'est un débat républicain sur les enjeux majeurs des élections. Peut-on les organiser en 2023 avec les trois opérations mutualisées entre la CENI, l'ONIP et l'INS? Corneille Nanga de la CENI dit oui, mais à condition de commencer maintenant, loin des pressions politiques et des manifestations de rue.
Il est donc indispensable qu'on commence. Avec la volonté politique, on peut encore tenir 2023 et malheureusement, le Congo n'a pas le choix. Il est vraiment indispensable que on commence les préparatifs. Parmi ces préparatifs, c'est aussi trouver les remplaçants des Nanga.
Doyen de la faculté des droits, le professeur Jean-Louis Essambo explique les motivations de ces débats.
Dans des pays suffisamment organisés, lorsqu'il y a un débat national sur une question donnée, l'université doit se prononcer. Et c'est donc interpellé par la question du recensement et des débats qui se passent dans notre pays autour de la gouvernance que la faculté de droit de l'université de Kinshasa a rencontré cette préoccupation du service à rendre à la communauté. Je crois que la recommandation phare à partir de toutes ces interventions, c'est qu'il faut absolument que le recensement de la population se fasse dans notre pays.
Aucun État normal ne peut se développer sans connaître le nombre de sa population et sans service de l'État civil. Tous les intervenants à ces débats en sont convaincus.
Nous parlons à présent du sommet Afrique-France, changement d'approche dans les relations et coopération entre l'Afrique et la France. C'est l'un des nouveaux paradigmes de traitement des Africains auxquels viennent d'aboutir les discussions du nouveau sommet Afrique-France, commencé le 8 octobre au sud de la France à Arena, à Montpellier. Selon un des participants, l'avocat Nsi Luanda, président du comité des observateurs des droits de l'homme Kodo, défenseur des droits de l'homme congolais exilé depuis plusieurs années en France, ce sommet a réuni 3000 Africains de la diaspora en France et les délégués de la jeunesse des pays anciennement colonisés par la France pour dialoguer et réfléchir sur une nouvelle méthode de coopération entre la France et les pays africains. Ti Luanda nous fait le compte-rendu au micro de Jeff Ngoy.
Les discussions ont été très profondes pour que la coopération entre l'Afrique et la France soit désormais sincère. Des engagements ont été pris par le président français pour que les relations changent de narratif, mais aussi changent de paradigme. C'est comme ça que même l'organisme français AFE, l'Agence française de développement, doit changer de nom, parce que le terme développement a été banni par l'ensemble des participants. Il y a des vocabulaires qui doivent être éliminés dans le langage des négociations entre les États africains et la France, notamment l'Afrique pauvre, l'Afrique des misères, aide à l'Afrique, aide au gouvernement africain. C'est de nouveaux vocabulaires qui doivent être inventés pour un respect mutuel entre les États. Nous avons jeté les bases pour que désormais la société civile, la jeunesse, soit toujours associée aux négociations.
Deuxième titre de cette édition, en Ituri, encore un convoi de véhicules civils en provenance de Luna attaqué samedi après-midi par des hommes armés identifiés aux présumés rebelles ADF. C'était précisément à Kidepo, une petite agglomération située à 2 kilomètres de Mambelenga, centre dans la chefferie de Wallis et Vonkutu, sur la route nationale numéro 4. Selon des sources locales, le bilan fait état de 4 véhicules incendiés et de plusieurs personnes portées disparues. De son côté, l'armée indique que les FRDC sont intervenus à temps pour limiter les dégâts. Martial Kizabiamungu.
C'est précisément vers 17h local que les convois composés d'une centaine de véhicules en provenance de Luna, à la limite entre le Nord Kivu et l'Ituri, a été surpris par des coups de balles tirés en rafale vers Kidepo, un petit centre où il y a plusieurs boutiques et dépôts alignés sur la route principale. Selon des sources locales, des hommes armés, dont certains en cagoule, ont surgi de la forêt et tiré plusieurs coups de feu en direction des véhicules. D'autres sources indépendantes dans la zone indiquent que dans ces mouvements de panique, 4 véhicules qui étaient dans les convois ont été incendiés par ces rebelles. Des sources militaires indiquent que grâce à l'intervention rapide des soldats qui convoyaient ces engins, aucun dégât humain n'a été enregistré. La même source indique que cette énième attaque ne va pas décourager les forces loyalistes dans leur mission de protection des civils avec leurs biens sur cette route nationale numéro 4. Certains activistes des droits de l'homme dans la région affirment qu'une dizaine de personnes sont pour le moment portées disparues suite à cette attaque. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les femmes de Butembo au Nord Kivu et de l'Ituri s'engagent à unir leurs efforts pour contribuer à la recherche à la recherche de la paix Préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire dans leur milieu, ces femmes leaders ont mis en place un plan d'action conjointe afin de rendre plus visible la contribution des femmes dans la recherche de la paix dans ces deux provinces en cette période exceptionnelle. Martial Kizabiamongo, en quoi consistait ce plan?
Ces plans d'action portent sur des activités qui entrent dans les cadres de la recherche concertée de la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cela à travers des plaidoyers auprès des autorités compétentes, les sensibilisations et des rencontres directes avec les leaders de groupes armés pour les conscientiser à déposer les armes. Elles se disent prêtes à être des ambassadrices de la paix avec là des messages de la pacification et la cohabitation pacifique parmi la population. Elisabeth Bouvelové revient sur quelques résolutions de ces assises.
Vu la continuité des massacres et autres formes de criminalité dans les deux provinces, les femmes de ces deux provinces déclarent que la paix n'est pas encore rétablie dans les deux provinces telle qu'attendue par la population, et cela malgré les efforts de l'État de siège dans les deux provinces.
Ces femmes sont toutes d'accord pour faire le suivi de la mise en œuvre de ces différentes recommandations auprès des parties prenantes, à commencer par les couches féminines. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Au sud Kivu, plus de 35 000 cas de problèmes de santé mentale ont été répertoriés au cours du premier semestre de cette année 2021. Les catastrophes naturelles à répétition, la pauvreté et d'autres situations traumatiques sont les principales causes de cette situation. Révélation faite par le ministre provincial de la Santé du Sud Kivu, ce à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée ce dimanche 10 octobre. Le point avec Emmanuel Elamejiwa Kabidi.
Le nombre de personnes souffrant de santé mentale ne fait que croître dans l'ensemble de la province du Sud de Kivu. Ainsi, de janvier à juin 2021, 35 240 personnes ont été enregistrées vivant avec des troubles mentaux. Le ministre provincial de la Santé, Massine Kinenoa, attribue cette situation à plusieurs facteurs.
Dans notre pays en général et dans la province du Sud Kivu en particulier, nombreuses personnes sont de plus en plus confrontées à des problèmes de santé mentale. Les facteurs favorisants sont héréditaires, les situations traumatiques multiformes dans un contexte de pauvreté, de guerre, de catastrophes de toutes sortes, à l'occurrence des incendies, des maisons, des inondations de cours d'eau avec des éboulements de terre entraînant des dégradations des conditions socio-économiques.
Comme mesure de prévention et de lutte contre tous ces cas de santé mentale figure l'accès aux soins de santé mentale de qualité, la réinsertion et réintégration des malades dans la vie socio-économique, ainsi que le soutien aux familles et proches des malades. Le Sud Kivu dispose à ce jour de 3 centres psychiatriques de référence situés dans la ville de Bukavu. Le thème choisi pour cette 29e journée de la santé mentale est le respect des droits des malades avec troubles mentaux. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Et au Kasaï Oriental, inauguration hier samedi en Mbujimayi du bloc opératoire ainsi que de la salle d'hospitalisation de la clinique ophtalmologique Saint-Raphaël dans la commune de la Kanchi. Cette clinique reçoit près de 35 000 malades par an, affirme son directeur. La cérémonie d'inauguration de ces deux bâtiments a été présidée par le ministre provincial de la Santé en présence du ministre d'État de la République de Hongrie, des évêques des diocèses de Mbujimayi et de Kabinda ainsi que quelques personnalités politiques et civiles. Cela après une grande messe d'action des grâces co-célébrée par Messeigneur des diocèses de Mbujimayi et de Kabinda. Esther Ndalafina.
Ces deux bâtiments de la clinique Saint-Raphaël serviront des blocs opératoires et d'hospitalisation de malades. Docteur Simon-Pierre Kasungu, directeur de cette clinique, a indiqué que ce centre hospitalier contribue au recul de la cécité visuelle par la prestation des soins oculaires de qualité.
Ce jeune cabinet est tombé à pic car il devrait couvrir une grande fossée laissée par les services d'ophtalmologie de l'hôpital de la Miba, obligeant les patients d'effectuer des distances pour aller se faire soigner à la Binda.
L'initiateur du projet, Dr Richard Hardy, a exprimé sa joie de voir son rêve devenir une réalité. Il a demandé aux prestataires de cette clinique de toujours se professionnaliser pour mieux servir les malades.
Chers médecins, chers infirmiers, chers personnels, c'est formation, formation, qu'on puisse être encore avec beaucoup plus de puissance auprès des malades.
Le secrétaire d'État de la République de la Hongrie, Tristan Asbez, a indiqué que le programme Hungary Helps financé par son pays, restera proche de la RDC dans le but de venir en aide aux plus démunis.
Le programme de Hungary Helps aide dans 41 pays démunis.
Signalons que la construction de la clinique ophtalmologique Saint-Raphaël a été financée par plusieurs partenaires, dont notamment l'association Alliance Internationale France, l'ONG Lumière pour le Monde. Esther Ndalafina Mboujumaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une religieuse colombienne enlevée il y a plus de 4 ans par des extrémistes liés à Al-Qaïda au Mali a été libérée. Enlevée en février 2017 près de la frontière malienne avec le Burkina Faso, Gloria Narvaez a tenu à remercier les autorités maliennes qui n'ont pas révélé les conditions de sa libération. Détenue par Al-Qaïda au Maghreb islamique, Gloria Narvaez avait été vue dans plusieurs vidéos publiées par les extrémistes dans lesquelles elle demandait l'aide du Vatican. Un attentat à la voiture piégée a visé dimanche le convoi du gouverneur d'Aden dans le sud du Yémen, faisant au moins 4 morts, ont indiqué à l'AFP des sources de sécurité. Le gouverneur d'Aden, Mohamed Amlamtlas, et le ministre de l'Environnement, qui étaient à bord du convoi, ont survécu à l'attaque, selon les mêmes sources. La voiture piégée a explosé au passage du convoi dans la rue Al-Mouala à Aden, capitale provisoire du pouvoir dans le pays en guerre.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui est le conseiller du gouverneur du Nord Kivu en charge des finances, économie, commerce et portefeuille. Dans cet entretien accordé à Denis Lukeso, maître David Kamoua parle des motivations de la reprise de la libre circulation des minerais dans les trois provinces, le Maniema, Nord Kivu et Sud Kivu, de l'impact et avantages de cette relance économique dans cette région. Suivez.
Monsieur David Kamoua, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Il y a 2 semaines, les 3 gouverneurs donc ont pris une décision de la libre circulation des minerais dans l'espace de ces 3 provinces. Qu'est-ce qui a motivé cette décision et pourquoi aujourd'hui, alors qu'on savait que les minerais ne pouvaient plus circuler dans ces régions par voie aérienne?
Cela procède de la volonté des 3 provinces qui ont signé un protocole d'accord en 2019 portant sur la libre circulation des minerais pour essayer d'endiguer la fraude minière, mais également dans le souci de promouvoir la classe moyenne dans nos 3 provinces. Il a été constaté que depuis l'interdiction du transport des minerais par voie aérienne, les comptoirs qui étaient à Goma, qui étaient des unités économiques très importantes, ont fermé. Pour votre gouverne, nous avions 28 comptoirs ici en ville de Goma, mais aujourd'hui, il ne nous reste que 2 comptoirs, tout simplement, puisque la production du Nord Kivu ne suffisait pas pour que ces comptoirs puissent fonctionner normalement. Toutes les agences de voyage avaient fermé à cause de l'interdiction du transport des minerais par voie aérienne depuis 2011. Voilà pourquoi les 3 provinces se sont réunies pour essayer de réfléchir ensemble, pour dire comment mettre fin à la fraude. La problématique, c'est quoi? C'est que lorsque les comptoirs ont fermé en ville de Goma, les creuseurs, eux, ont continué à produire. Mais comme il n'y avait pas de comptoirs pour acheter ces minerais, les creuseurs préféraient passer par des voies détournées et ramener les minerais à l'extérieur du pays où les comptoirs étaient installés. D'où la fraude minière qui a été cristallisée. Et donc, aujourd'hui, la signature de ce protocole d'accord apparaît comme une solution. D'abord pour lutter contre la fraude minière, pour que tous nos minerais soient acheminés par le voie légale à partir du Nord Kivu ou du Sud Kivu. Mais aussi, ça permet aujourd'hui à la résurgence de la classe moyenne, puisque tous ceux qui interviennent dans cette chaîne-là, des minerais, à partir depuis où on creuse les minerais jusqu'à l'exportation, imaginez-vous le boom économique que cela va faire dans nos 3 provinces. Aujourd'hui, 1 kilo de minerais de cassiterite qui coûtait $8 à Maniema coûte aujourd'hui $11. Vous voyez l'impact que cela a sur la population même et de Maniema, mais également du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et je pense que c'était une décision salutaire, puisque nous devons ici saluer le courage de la ministre nationale des Mines qui a effectivement accepté que ces protocoles d'accord puissent être exécutés dans nos 3 provinces.
D'autres conséquences qui découlent de cette reprise des activités économiques dans le secteur minier pour le bénéfice de ces 3 provinces?
Sur le plan sécuritaire, les jeunes qui étaient dans les groupes armés faute d'activité vont aujourd'hui reprendre leur activité minière puisque le prix a augmenté. beaucoup de jeunes vont trouver l'emploi. Donc, ils ne seront plus désœuvrés, ils vont être utiles puisqu'ils auront contribué grâce à leur production au développement de leur province à travers les activités minières, mais également à travers d'autres emplois qui vont se créer, notamment la manutention, les agences de voyage, comme point important. La province du Maniema est enclavée. Alors, les compagnies d'aviation, pour transporter les produits manufacturés du Nord Kivu, ne pouvaient pas aller à Maniema sans se rassurer qu'ils auront du cargo à ramener. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, vous transportez les produits vivriers, les produits manufacturés du Nord Kivu vers le Maniema et vous êtes sûr de revenir avec le minerai. Donc, la compagnie ne va pas chômer. Donc, voilà autant de points positifs pour l'économie des trois provinces, mais également le social même de toute la population.
La traçabilité, on en parle encore. On accuse les minerais qui viennent du Kivu, les minerais du sang. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de la transparence dans la traçabilité des minerais qui sortent du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu pour être exportés?
Je peux vous rassurer effectivement, madame, que ces minerais sont certifiés puisque les sites d'où proviennent ces minerais sont d'abord des sites qualifiés par le ministre national des mines comme des sites verts, de telle sorte qu'il n'y a aucun groupe armé qui travaille dans les sites qui sont en train d'être exploités au Maniema, au Nord Kivu et au Sud Kivu, d'où proviennent les minerais que nous allons devoir exporter. Donc rassurez-vous qu'il n'y a pas de minerais de sang au Nord Kivu, au Maniema, au Sud Kivu, que nous encadrons à travers l'application de ces protocoles. Le message que je lance à nos partenaires des entités de traitement qui avaient fermé et d'autres qui se sont délocalisés dans d'autres pays, c'est de revenir au Nord Kivu, au Sud Kivu et au Maniema. Nous pensons qu'il y aura une masse monétaire importante qui va circuler dans nos trois provinces et ça permet l'équilibre macroéconomique.